Ça fait du bien de pouvoir chanter avec force. si je chante avec force, quand tout le monde est là à notre assemblée, puis qu'on est les 21, on risque de m'entendre juste moi. Fait que ça fait du bien quand je viens ici de pouvoir pousser. Je voulais vous faire un petit bref, nouvelle en bref de notre famille. On a une petite photo prise cet été de ma petite gang. Oui, ça c'est cet été. Hein? Ouais, c'est pour mettre un peu de soleil. Donc, vous voyez la petite Adassa. Non, la petite Adassa est là, Anna est là, Manoa est là, puis Sephora est là. Donc, ça c'est notre petite famille. Ça va bien là-bas avec la petite famille. Mélanie fait l'école maison, puis les deux plus vieilles, là, ils apprennent, puis les deux plus jeunes, ils veulent apprendre eux autres aussi, puis même s'ils sont bébés, là, ils veulent faire des bricolages, puis faire suivre un peu le reste de la famille. Pour ceux qui ont suivi le projet Paquin, c'est officiellement clôturé. Alléluia. Non, mais merci Seigneur, parce que tout ce travail-là, c'est fait, mais aussi, ça faisait, j'ai passé 2 ans à travailler temps plein sur la maison, puis temps plein pour l'œuvre du Seigneur, fait que 2 fois temps plein, ça fait un gars à terre. Donc, merci Seigneur, là c'est terminé, là je fais juste des petits travaux dans la maison pour arranger les chambres des enfants. Quand j'en ai le temps, si j'ai pas le temps, c'est pas grave, ça va attendre. Donc, merci Seigneur pour ça. Dans le fond, c'est 3 merci Seigneur. Vous avez voyé la phrase ici, y a-t-il quelque chose de surprenant de la part de l'Éternel? Y a-t-il de quoi que Dieu est pas capable de faire? On a eu un beau poisson d'avril cette année. Vous savez, quand Adassa est née, nous autres, j'ai 4 enfants, là, ça remplit une vanne, ça remplit une maison, puis... Anna, oui, c'est ça, je mélange les enfants. Hein. Quand Anna est née, je dis, voilà, regarde, puis on va ça, il faut s'en occuper comme du monde, puis là, on dit, regarde, on va être sage, puis Mélanie, suite à l'accouchement, elle s'est faite ligaturer. Mais dans sa tête, elle disait, Seigneur, je veux te faire confiance, mais tu sais, je veux dire, si tu penses que je suis capable d'en avoir un autre, puis que je suis capable d'en prendre soin, ben tu es capable de faire n'importe quoi, puis c'est pas ça qui va t'arrêter. Mais ben, devinez quoi. Ben Mélanie est enceinte, puis pour novembre l'année prochaine, probablement mais qu'on revienne en octobre, elle va avoir. C'est ça. Donc, Dieu a jugé, puis Dieu nous a donné un cadeau, dit, regarde, on peut pas s'opposer, cet enfant-là, il était voulu de Dieu, puis il nous le donne, puis on a hâte de voir ça, donc on va avoir une face de plus sur la photo la prochaine fois. Donc, aussi, une autre action de grâce, vacances, ça existe ça? Jeudi puis vendredi, on était à une conférence d'ouvriers, puis ils faisaient tirer de l'argent pour aller en vacances. Puis, on a gagné. Fait que c'était une bénédiction parce qu'on avait vu, on voulait aller, parce que la sœur à Mélanie reste au Nouveau-Brunswick, puis en y allant, ils nous avaient montré une place, là, des chalets construits dans les arbres, là, avec un beau camping, avec une piscine, puis des choses comme ça. Puis là, ça serait le fun d'y aller, là, je m'en vais pour voir sur le site. Parce que, on vire de bord. Mais finalement, là, c'est réservé, mes dates sont réservées au camping, puis on va pouvoir y aller en famille. Donc, merci Seigneur, on va pouvoir se reposer ensemble. Aussi, on continue de faire nos activités mensuelles du camp Joie de vivre, c'est qu'à chaque mois, ceux qui sont venus au camp d'été, ben, on veut continuer de les ramener ensemble, d'un, pour qu'ils continuent d'être ensemble, mais aussi pour qu'ils continuent d'entendre la parole de Dieu. En octobre, comme la dernière fois que j'étais ici, je vous disais que la semaine d'après, j'allais emmener des jeunes à la conférence jeunesse à Villa du Carmel. Et vous voyez les 6 jeunes que j'ai emmenés. Donc, 6 jeunes, 3 qui venaient d'une famille chrétienne et 3 qui n'avaient rien à voir absolument avec une famille chrétienne. Et qui ont vraiment, on a eu du bon temps, ils se sont fait des amis, puis ils veulent tous y revenir. Fait que probablement qu'en octobre, je vais remplir ma vanne, puis s'il n'y a pas assez de la vanne, ben, on remplira une autre voiture, puis on va revenir avec ces jeunes-là. Et ça a été vraiment un bon temps. On a fait notre Fort Boyard au mois de novembre, encore là, construire toutes sortes d'épreuves, puis ça, j'aime bien faire ça, puis les jeunes aiment bien ça aussi. On a fait notre party mexicain en décembre, un party de Noël avec la piñata, puis les tacos, puis les nachos, puis etc. Et Feliz Navidad, évidemment. Et on a eu notre camp d'hiver en janvier, donc trois jours où ce qu'on a eu une belle gang. Vous voyez la photo de groupe-là, puis je suis sûr que vous reconnaissez quelques personnes là-dedans aussi, parce qu'on a eu de l'aide qui est venue d'ici. On a eu, vous voyez, le dessus de la tête de Robert Vincent, qui est en haut là, avec Richard Brisson, puis mon frère qui a fait le transport pour ceux qui voulaient venir. Mais on a eu vraiment, on était 30 dans la maison. En tout cas, c'est ça. On a passé la fin de semaine, une bonne gang. Tout ce monde-là, c'était chez nous. Puis donc, c'est toujours des belles occasions de passer du temps encore, de passer du temps avec les jeunes, puis de leur parler du Seigneur. En février, on a fait notre chocolaterie. Donc, vous voyez l'image du coin, mon petit garçon Manoa, il était dur à coucher cette soirée-là. Et en mars, juste dernièrement, on a fait notre cabane à sucre. Donc, on continue là en avril, on va refaire, pour ceux qui étaient dans U-Turn, on va refaire notre guerre de petits fusils. Donc, c'était la traditionnelle guerre de petits fusils astuces qu'on faisait, puis ça poignait tout le temps. Mais là, on va la refaire là-bas, donc virer à la maison à l'envers, mettre de la boucane, puis des lumières qui flashent, puis etc. Mais le but, encore là, c'est de labourer, parce qu'encore là, avec ces jeunes-là, souvent, tu lui parles des histoires de la Bible, puis c'est ce qui est le fun, tu parles des histoires de la Bible, puis c'est pas comme, tu sais, quand tu racontes les histoires de la Bible avec tes enfants, puis là, ils complètent l'histoire parce que tu oublies des bouts, puis eux autres, ils savent plus que toi. C'est pas la même affaire, ces jeunes-là, ils la connaissent pas. Les histoires de la Bible, ils les connaissent pas du tout, puis on peut vraiment amener, pendant le camp d'hiver, je parlais de la vie de Paul, puis c'était complètement un inconnu pour eux autres. Donc, de pouvoir apporter la parole de Dieu, puis se labourer, pour ceux que c'est des premières fois encore, à toutes les peut-être deux groupes de jeunes, on a des nouveaux qui arrivent, puis on laboure, on sème, puis on continue d'arroser ce qui a été semé. Puis c'est notre prière, puis notre espoir qu'un jour, on va pouvoir récolter, puis que ces jeunes-là vont mettre leur vie entre les mains du Seigneur. Il y a aussi notre camp Joie de vivre qui s'en vient en été. Stéphane nous a parlé de la thématique. Les dates, je ne les ai pas écrites sur le PowerPoint, mais on a notre première fin de semaine du 1er au 3. Ça, c'est un ajout de cette année pour les 15 à 18 ans. Parce que quand on est arrivé là, il y a 5 ans, bien, les jeunes qui avaient 12, 13 ans, bien, là, sont tous rendus à 17, 18 ans. Puis ils n'arrêtent pas de nous dire « Oh, je ne peux plus y aller ». Ben, on va t'arranger ça. Donc, on a fait une fin de semaine pour eux autres du 1er au 3 juillet. Et ensuite, du 10 au 23, c'est les semaines régulières pour les 9 à 12 ans, puis les 12 à 16 ans. Cette année, comme qui a été dit, le thème, c'est les aventures d'Astérix, que j'aime bien. Et nous sommes en 2016 après Jésus-Christ. Tout le Québec est occupé par l'ennui. Tout. Non. Un petit camp en Gaspésie rempli d'activités appelé le camp Joie de vivre résiste encore et toujours à l'ennui avec toutes sortes d'activités comme la randonnée, les sports d'équipe, le bricolage. Et cette année, Obélix va montrer à travailler la pierre. J'ai acheté de la stéatite, communément appelée de la pierre à savon, et on va travailler la pierre avec Obélix. La pêche aux poissons frais. Et vous voyez, ici, c'est pas comme dans le fleuve. Ici, regardez combien qu'on pogne de poissons après notre ligne à pêche. Là. Ouais. Et la musique, évidemment, on n'a pas la même voix que lui. Les compétitions. Et aussi la baignade. Là-dedans.
Elle est froide, mais elle est bonne.
Et aussi le tir à l'arc qui fait toujours un grand succès au camp. Et vous voyez la photo du coin, cet été, on a tiré sur cible mouvante avec une poche accrochée après une tyrolienne avec des cordes. Et aussi Étienne, tu te reconnais-tu? Il est où Étienne? Il est monté en haut. Alors, vous voyez Étienne, ça c'était là quelques années. Ça fait un bout qu'on ne les a pas faites, mais il fallait les refaire cette année. On va refaire les radeaux. Donc, compétition de radeau, course de radeau, combat naval de radeau. Donc, c'est vraiment super. En arrière de la maison à Benjamin, là-bas, il y a une place où il n'y a pas d'eau. Tu sais, tu as juste de l'eau pour faire flotter un radeau, mais à part ça, tu peux marcher bien longtemps à en avoir juste à la taille. Fait que c'est super pour ça. Et aussi, les histoires bibliques actées. Donc, c'est une des choses qu'on fait toujours. Au lieu de juste lire l'histoire, bien, Ceux qui sont déjà venus ont déjà été un personnage biblique. On vous déguise, Stéphane a déjà été Saül. Donc on déguise, on fait l'histoire, on l'acte, on fait vivre l'histoire aux jeunes. S'il y a des scènes qui se passent dehors, les jeunes ils suivent le camp, on fait des actions, les actes dehors, puis ensuite on revient pour l'application. Donc c'est vraiment des bonnes occasions. Puis même si on n'a pas tout mentionné les aventures que vivront les campeurs, nous devons terminer ici de la même manière que se terminera le camp, par un beau banquet. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez participer au camp, comme j'ai dit, il y a les papiers qu'on a laissés qui vont être à l'information en arrière. Et vous pouvez aussi aller voir Mélanie pour lui donner votre nom ou si vous voulez juste être sur une liste d'appels au cas où, une liste de contacts, si on a des besoins de faire communiquer les besoins. Vous allez voir Mélanie, venez pas me voir, je vais l'oublier. Donc, vous allez voir Mélanie pour ça. C'est elle qui est bonne là-dedans. Aussi, dans nos requêtes de prière, si vous voulez prier pour le camp, je vous dirais de prier pour le terrain de camping. Au printemps prochain, on arrive avec le renouvellement de notre bail au terrain de camping. Puis à toutes les années, c'est tout le temps un stress de savoir qu'est-ce qui arrive avec eux autres. Parce que financièrement, ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés. Ils sont 200 payeurs de taxes qui font vivre le camping municipal. Puis ils ont besoin de rénovation sur leur bâtiment. Puis ils sont toujours à dire, qu'est-ce qu'on fait avec le camping? On ferme-tu? On vend-tu? Ça a un lien direct avec nous autres. On vient de tout reconstruire nos bâtiments. Puis s'ils décident, s'ils décident de fermer, c'est ça. Nous autres, c'est plan B. Donc, priez pour ça, la situation du terrain de camping. Aussi, la piscine du terrain de camping, s'ils n'ont pas de lifeguard, on n'a pas de piscine. Donc, ça dépend complètement. Il y a beaucoup d'affaires qui dépendent d'eux autres. Mais on le sait, dans le fond, que ça ne dépend pas juste d'eux autres, ça dépend du Seigneur. Fait que c'est pour ça que je vous demande de prier pour ça. Donc, aussi, priez pour le personnel, les jeunes, qu'on puisse avoir encore des belles occasions de pouvoir parler de lui au camp. Donc, tournez dans votre Bible. J'ai fini les pauses publicitaires. Une des choses que, quand je pense à Michel Penneau, il y a une phrase qui me revient toujours. Il y a trois choses qui ne changent pas. Les connaissez-vous? Avez-vous déjà entendu Michel Penneau dire ça? C'est quoi les trois choses qui ne changent pas? La parole de Dieu, le cœur de l'homme, puis Dieu lui-même. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas, puis le cœur de l'homme ne change pas. Puis à Saint-Anne-des-Monts, ces temps-ci, j'étais en train de faire une étude des psaumes, et qui a commencé en septembre. Évidemment, quand j'étais là en octobre, j'ai apporté le psaume 1 ici, plutôt à Polyvalente, mais... Je suis rendu dans le psaume 12, puis ce psaume-là reflète bien ces trois vérités-là, les choses qui ne changent pas. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas, puis le cœur de l'homme ne change pas. Puis mon message est intitulé « Vrai ou faux ». Vrai ou faux, parce que, je veux dire, c'est quelque chose, une vérité qu'on est confronté à tous les jours. Vrai ou faux. Y en a-tu ici qui vont sur Facebook des fois? Ça, c'est une question qu'il faut que tu te poses à tous les fois. Toutes les fois qu'il y a une annonce sur Facebook, un article sur Facebook ou sur Internet quelconque, tu te poses des questions, c'est-tu vrai ça ou c'est faux? Je veux dire, tu le sais pas. Puis il y a des possibilités que ce soit vrai et faux. Et c'est comme si vous avez déjà écrit un test pour quelqu'un ou un test pour des élèves, puis tu fais des questions vraies ou faux, tu sais, tu t'arranges tout le temps pour que ça y est. Proche de faux ou proche de vrai, là, pour être sûr qu'il soit bien attentif à la question. Mais on est tout le temps, c'est quoi qui est vrai? C'est quoi qui est vrai? Puis ça remonte à, je veux dire, Pilate, la question qu'il a posée à Jésus reflétait un peu même, v'là 2000 ans, c'était quoi la situation avec le vrai ou faux? Pilate, il a dit à Jésus, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et on va lire ensemble le psaume 12. Ça dit, au chef des chantres, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui sera notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur la terre au creuset, et cette foi épurée. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Souvent, ben avant de commencer cette étude-là sur les psaumes, j'avais souvent l'impression que les psaumes, je veux dire, c'est très culturel de ce temps-là. D'un, par leur imagerie, puis aussi, c'est poétique, puis j'avais beaucoup de misère à m'identifier aux psaumes. Puis depuis que je m'approche des psaumes, puis que j'étudie les psaumes, tu sais, quand Jacques il dit « la parole de Dieu, c'est comme un miroir », bien, plus que ça va, plus que je vois que les psaumes, c'est le miroir le plus propre et le mieux nettoyé sur le cœur de l'homme dans toute la Bible. C'est vraiment un livre qui parle au cœur de l'homme et qui reflète, je veux dire, là, on a quelque chose qui est écrit par David. Ça vient longtemps. Quand j'ai dit « le cœur de l'homme ne change pas », puis je ne sais pas si vous avez, en lisant, vous avez reconnu quelques affaires qu'on peut faire face à tous les jours. Et que le cœur de l'homme n'a pas changé. Et il parle ici des paroles. Et Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, on a le reflet du cœur ici dans ce passage-là. Et on va regarder les deux premiers, les versets 2 et 3. Je ne rentrerai pas en détail dans tous les versets parce que je ne veux pas dépasser le temps. Mais il dit, fait-on confiance à quelqu'un? Avez-vous de la difficulté à faire confiance à quelqu'un? Je veux dire, bon, on a nos époux, nos épouses, qu'on fait confiance, mais est-ce que vous vous sentez seul, des fois, de dire, je peux pas faire confiance dans mon milieu de travail, je peux pas faire confiance. Sont où les hommes fidèles? Ici, la question que David se pose, il dit, Éternel, sauve! Car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent entre les fils de l'homme. Il est où celui-là qui est fidèle, que je vais pouvoir dire quelque chose, ça va rester, je vais pouvoir confier quelque chose, je sais que ça va être accompli, je vais pouvoir faire confiance à cette personne-là, me confier dans cette personne-là, sont où? Et David, même, on le sait, je veux dire, là, c'était dans le temps de la Bible, ça allait bien mieux qu'aujourd'hui. Mais même en son temps, il se sentait, il dit, ils sont où? Je regarde autour de moi, puis je ne vois pas. Des hommes fidèles avec qui je peux me confier. On a aussi Élie qui a vécu la même chose. Élie, après avoir renversé les prophètes de Baal par ce défi qu'il leur a lancé, il était à bout, puis il regarde autour de lui, puis il dit, « Sont où ceux qui croient en Dieu? Sont où ceux qui font confiance à Dieu? Je ne les vois plus. Il n'y en a plus. » Dieu avait sa réponse, il dit, « Je m'en ai réservé 7000. » Mais des fois, on est dans cette situation-là, puis notre cœur, il dit, « Je suis seul, il y en a, avec qui je peux faire confiance? » C'est souvent notre cas à l'autre bout du monde, par là. Je veux dire, il n'y a pas une grosse population de un, mais une population de personnes qui croient en Dieu comme nous. On se sent seul. Et David, sa réponse, c'est de se tourner vers le Seigneur. Comme quand on lit les psaumes, c'est souvent ça la réponse. David, il cite ses problèmes, mais il se tourne vers l'Éternel. Mais qu'est-ce qui caractérise ce manque d'hommes fidèles et d'hommes pieux? C'est verset 3. Et on se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Et ensuite, il dit au verset 5, ben 4, il parle de lèvres flatteuses, ceux qui parlent avec arrogance. Mais il dit aussi au verset 5, ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Fait-on confiance au mensonge? Ben non, on ne peut pas faire confiance à un menteur. On ne peut pas faire confiance quand quelqu'un nous dit un mensonge. Évidemment. Hein? Oui? Non? Mais est-ce qu'on fait confiance au mensonge? Et ici, on a dans le verset 5, spécialement, quelqu'un qui il dit, nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? La capacité d'arriver à nos fins par notre langue. Puis quand tu manipules avec ta langue pour arriver à ce que tu veux, ben c'est que tu fais confiance aux mensonges. Je fais confiance à mes mensonges pour me sortir du pétrin. Et c'est pas nouveau. Je veux dire, le mensonge fait partie de l'histoire depuis le début de l'histoire. Le début, je veux dire, Jardin d'Éden, le serpent, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, Dieu n'a pas vraiment dit ça. Ça ne vous arrivera pas vraiment ce que Dieu a dit. Mais remarquez déjà, ça avait deux sections. Il y en a un qui dit quoi, puis l'autre dit quelque chose. Qui dit vrai? Qui dit vrai dans ces deux affaires-là? Comment je fais pour savoir c'est qui dit vrai? Bien, la parole de Dieu s'est avérée vraie au début. Et au cours de l'histoire, à toutes les fois qu'il y a un mensonge qui était là pour essayer de détourner de la parole de Dieu, Dieu s'est avéré vrai, puis l'ennemi s'est avéré menteur. Et on commence dans la vie, on est enfant, ceux qui ont eu des enfants ont fait face à ça, ça prend pas de temps que tu... Il y a quelque chose qui a été fait dans la maison de pas correct et tu demandes, c'est toi qui as fait ça? Ah! C'est elle! Ça a commencé de même au Jardin d'Éden, ça a commencé de même dans la vie. Et on fait confiance aux mensonges pour nous sortir d'affaires. On fait confiance aux mensonges, des fois même pour s'élever. On veut paraître mieux que ce qu'on est vraiment. Donc, quand on raconte des choses qu'on a faites ou quand on parle de nous-mêmes, on va monter la coche un petit peu. Et on utilise le mensonge pour s'élever. On utilise le mensonge pour escroquer. Je veux dire, ça, c'est... Vous faites pas ça. Mais tu sais, on vient de passer... on est dans la période des impôts, là, puis je veux dire... C'est pas un mensonge, c'est juste écrit. Je l'ai pas dit, je l'ai juste tapé. Alors, je suis sûr que si la Bible aurait été écrite aujourd'hui, à toutes les fois qu'elle parle de la langue, elle parlerait des pouces puis des doigts aussi. Donc, quand tu communiques, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tu utilises le mensonge pour tes fins? On se dit des faussetés les uns aux autres et on aime mieux ça. On aime mieux dire des faussetés que dire la vérité. Puis même, je dirais qu'on aime mieux entendre des faussetés qu'entendre la vérité. Il y a un proverbe turc. Il dit « Celui qui dit la vérité doit avoir un pied à l'étrier. » L'image est là. Je veux dire la vérité à quelqu'un, ben, je suis mieux de tenir les rênes de mon cheval puis d'être prêt à embarquer puis flyer. Parce qu'on ne veut pas se faire dire la vérité sur nous-mêmes. Et quand la parole de Dieu dit la vérité au sujet du cœur de l'homme et au sujet du péché et de notre condition qu'on est prisonnier dans nos péchés, le monde veut-tu l'entendre, celle-là? Mais en dedans, pourquoi est-ce qu'ils réagissent? Si je dis à Stéphane, je trouve que tu n'as vraiment pas de cheveux. Mais il rit. Je veux dire, ça ne l'affecte pas pantoute. Je veux dire, parce qu'il sait que c'est pas vrai. Mais quand tu dis, quand tu parles à quelqu'un puis il sait que ce qu'on dit est vrai, puis ça affecte, puis ça réagit, parce qu'on ne veut pas entendre la vérité. On aime le mensonge, on aime rester dans le mensonge, on aime se confier dans le mensonge pour paraître et pour être quelque chose qu'on n'est pas. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses. On veut parler pour obtenir. Et j'écoutais un cours sur les proverbes, et celui-là qui donnait le cours, Bruce Waukee, il parlait de toutes les fois qu'on voit le méchant dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là. Il dit, bon, le méchant fait ci, le méchant fait ça. Bon, j'en connais pas de méchant, moi. Je veux dire, peux-tu dire à quelqu'un, lui, là, c'est un méchant. Mais là, tu vas dire, bon, lui qui est en prison, c'est un méchant, puis lui qui a fait des gros crimes, c'est un méchant. Mais sa définition qu'il donnait au méchant, ça a fait comme, oupelaï. C'est quand je cherche à m'avantager en désavantageant quelqu'un d'autre. Oups, ça veut dire que des fois, je suis méchant. Puis, quand on prend cette définition-là, on voit que, je veux dire, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours où ce que chacun essaye de s'avantager, et peu importe si ça désavantage, et même des fois, on cherche à désavantager l'autre pour avoir notre avantage. Et par là, on utilise des choses flatteuses. Et un cœur double, c'est quoi? Hypocrite. Quand je le sais qu'en dedans, qu'une chose est vraie ou qu'une chose est fausse, et que je dis quand même, quand je joue double jeu, un double cœur, c'est deux intentions. Je démontre une intention quand dans le fond, mon intention est quelque chose de complètement différent. Est-ce qu'on fait confiance aux mensonges, aux paroles flatteuses pour arriver à notre bonheur, bien, ça n'arrivera pas. Et David, il prie à Dieu, il dit, « Sauve, Éternel, je ne veux pas qu'il en soit ainsi. » Puis même, il dit que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses de la langue qui discourt avec arrogance. C'était sa prière à Dieu. « Je ne veux plus que ça soit le cas. Je veux vivre dans un monde vrai. » Sa prière, c'était son désir. Il ne dit pas là, de couper la langue et les lèvres à tous ceux qui disent des mensonges, mais c'est une manière de parler dans les psaumes qui est très présente. Comme dans le psaume 11, juste avant, il parle de briser le bras de ceux qui font le mal. Ça ne veut pas dire de... Non, il veut dire, le bras, c'est le membre qui le fait agir. Empêche-les d'agir pour faire le mal. Empêche-les d'agir. Empêche-les de parler avec mensonge puis d'induire en erreur. C'est la prière que David a. Mais David fait confiance à Dieu là-dedans. Je veux dire, quand on adresse une prière à Dieu, c'est quoi qu'on fait? On dit, Dieu, c'est à toi. À toutes les fois dans les psaumes, c'est des passages qui sont difficiles, qu'on saute souvent par-dessus quand il y a une prière qui est là. Délivre-moi du mal, délivre-moi de mes ennemis, fais qu'ils soient détruits. Je veux dire, des fois, on est là, puis... Mais c'est quoi cette prière-là? Mais dans le fond, la prière de David, il dit, garde, je ne veux pas m'en occuper de mes ennemis. Je ne veux pas m'en occuper de ceux qui font le mal. Je ne veux pas être celui qui va combattre contre eux. Je les remets entre tes mains, puis fais-en ce que tu veux. C'est les genres de prières qu'on voit souvent dans les psaumes. Mais il dit, David, il fait confiance à Dieu. Et je veux qu'on regarde ensemble dans le psaume 11, juste au verset 3. Ces trois psaumes-là, 10, 11 et 12, ils ont des liens assez forts ensemble. Psaume 11 au verset 3, il dit, « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? » Il parle du fondement de la civilisation. Je veux dire, le fondement de ce qui est, c'est la vérité. Ce qui est vrai, quand on vire tout à l'envers, puis que le vrai devient faux, puis que le faux devient vrai, puis que le mal devient bien, puis que le bien devient mal, le juste, qu'est-ce qu'il va faire? Et dans notre psaume 12, on voit que c'est par les paroles, quand toutes ces faussetés-là sont répandues partout, ce qui est faux devient vrai, puis tu ne peux pas dire le contraire. Qu'est-ce que le juste va faire dans cette situation-là? Et au chapitre 10, on voit encore un paquet de mentions de ce que le méchant dit dans ses paroles, dans son orgueil. Il dit aussi, Dieu ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Non. Si on dit que la parole de Dieu n'est pas d'actualité, je veux dire, ce passage-là qui a été écrit il y a 3000 et quelques années, il est encore vrai aujourd'hui. Le monde dit, Dieu ne punit pas, il n'y a pas de l'enfer, ces choses-là, ça n'existe pas. Dieu, dans le fond, il n'y en a pas de Dieu. Je ne chancellerai pas, je ne tomberai pas, il n'y en a pas de problème. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraudes. Il a sous la langue de la malice et de l'iniquité. Il dit aussi, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Voyons Dieu, pourquoi tu t'occupes de ces affaires-là de Dieu? Là? Vis ta vie, puis amuse-toi, puis garde. Ça fait partie des mensonges qu'on peut croire. Est-ce que c'est vrai que Dieu ne voit pas? Dieu a les yeux sur la création, Dieu a les yeux sur les bons puis les mauvais. Puis il y a les yeux sur chacun de nous, il y a les yeux sur notre cœur, il y a les yeux même sur nos pensées, et il voit. Est-ce que c'est vrai que Dieu ne punit pas? C'est vrai? Non! Un jour, tout le monde va avoir à rendre compte pour le bien ou pour le mal qu'il va avoir fait. Il y a un seul moyen d'en échapper. C'est quoi? La croix. La croix où ce que, comme qui a été dit ce matin, Dieu veut pardonner nos péchés, Dieu veut prendre nos péchés, puis tout le mal qu'on a fait, puis l'oublier volontairement, pas dire j'ai une période d'oubli et d'Alzheimer, non, on dit je le prends, je vais le jeter au fond de la mer parce que je pardonne, parce que Jésus a payé sur la croix pour ce péché-là. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Ou est-ce qu'on fait confiance aux mensonges qui nous sont dits concernant Dieu? « Ah non, moi je le crois que Dieu punit, je le crois que Dieu voit, je le crois que Dieu est là. » Oui, des fois on l'oublie aussi. Des fois, on fait des choses, puis on pense des choses, puis on agit quand on pense qu'on est en secret. Mais Dieu est là, et Dieu voit, et Dieu agit. Est-ce qu'on demande pardon à Dieu pour ces choses-là? Psaume 12, versets 4 et 6, nous démontre vraiment la pensée de Dieu face à ça. Verset 4, c'était comme j'ai dit, Dieu haït le mensonge. Dieu est un Dieu de vérité. Et aussi au verset 6, il dit, « Parce que les malheureux sont opprimés. » Opprimés de quelle manière? Il dit, « Les pauvres gémissent. » Il parle ici du même sujet. Quand la personne utilise la flatterie, la tromperie, le mensonge, l'escroquerie pour venir opprimer quelqu'un, Dieu le voit. Il dit, « Maintenant, le dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » Je vous dis, quand je vois cette expression-là de ceux contre qui l'on souffle, il y a toujours la même image qui me revient en tête, c'est les trois petits cochons puis le gros méchant loup. Je veux dire, et là, Dieu, c'est comme l'image est là d'une personne qui veut souffler contre les faibles pour essayer de les détruire. Dieu, un jour, par le souffle de sa bouche, va détruire tous les méchants et il va rétablir la justice sur la terre. Mais qu'est-ce que... à quoi est-ce qu'on fait confiance? C'est drôle parce que là, il a parlé des paroles mensongères qui sont partout. Parce qu'il dit, il y a la justice, la fidélité, je n'en vois plus. Puis il dit, autour, je vois juste le mensonge. Puis sans introduction, au verset 7, il va juste dire, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. C'est quoi qui est vrai? C'est quoi qui est faux? Quand tout ce que j'entends, je suis obligé de me poser tout le temps la question. C'est fatigant. Y a-t-il une place que je peux aller et que quand je vais regarder ces choses-là, quand je vais entendre ces choses-là, je n'aurai pas d'affaire à me poser 36 000 fois la même question. Est-ce que tu vrai, est-ce que tu faux, est-ce que tu vrai, est-ce que tu faux? Les paroles de l'Éternel sont pures. J'ai pas d'affaire à me la poser, cette question-là. Dieu l'a dit, c'est vrai. Oui, mais là, faut t'en prendre puis t'en laisses, là. Ben... Quand quelqu'un il dit la vérité depuis 6000 ans, puis que tout ce qu'il dit s'accomplit, tu vas te tourner dans la face de cette personne-là, puis tu vas dire, faut que j'en prenne, puis j'en laisse, là, de ce que tu dis. Puis quand un monde qui n'arrête pas d'essayer de nous avoir par toutes sortes de tromperies, que ce soit par le marketing ou toutes ces choses-là, dit quelque chose, on y dit, la Bible, là, c'est faut en prendre et en laisser. La parole de Dieu est pure. Pure, pas de motif en arrière puis d'hypocrisie là-dedans. Un argent éprouvé sur la terre au creuset, comme l'argent qui, en étant chauffé, enlève toutes les impuretés. Mais là, il dit la parole de Dieu, là, c'est comme l'argent qui a été purifié. Mais je pense que l'image n'est pas assez forte, fait que David y rajoute 7 fois, complètement. Je veux dire, tu l'as fait purifier 7 fois, il n'y a plus rien. Tu n'as même plus besoin jamais de te poser la question « Es-tu vrai ou es-tu pas vrai? » Parce que la parole de Dieu s'accomplit. Est-ce qu'on lui fait confiance? Il dit, « Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. » Déjà là, c'est une vérité. Au travers de tous les siècles, chaque génération, chaque peuple a déjà essayé de détruire la parole de Dieu, la Bible. Essayer de la détruire, de la faire, on dit, les Bibles, on brûle tout ça, on interdit la Bible, on a toutes sortes de moyens qui ont été mis, on dénigre la Bible, on essaye de faire dire que c'est pas vrai, toutes sortes de moyens pour essayer de la faire rendre silencieuse. Dieu l'a gardé. Puis il n'y a jamais une civilisation, un peuple qui a réussi à détruire la parole de Dieu parce que celui-là qui est tout puissant gardait sa parole. Dis-toi, Éternel, tu les préserveras de cette race à jamais. Psaume 12, verset 9, il est bizarre. Je veux dire, quand tu dis quelque chose, tu as quelque chose, des belles paroles à dire, tu viens de dire comment la parole de Dieu était fidèle, était vraie. Je m'attendais à un, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. 5. Non. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et tout allait bien, et tout est bien qui finit bien. Mais David, il termine par « Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. » Hey, c'est merveilleux, ça, comme terminaison d'un psaume. Tu viens de parler comment Dieu est vrai, comment tu mets ta confiance en Dieu, comment tu pries à Dieu qui extermine le mensonge. Puis, tu termines La bassesse règne parmi les fils de Rome. Mais David est réaliste. Depuis la création, depuis le jardin d'Éden, le mensonge caractérise le cœur de l'homme qui n'a jamais changé. Puis on n'a pas besoin de regarder loin, on peut juste regarder nos propres cœurs pour voir le mensonge qui est là. Puis on n'a pas besoin de regarder loin aussi, on regarde autour de nous, on regarde à nos travails, on regarde notre société qui répète des mensonges, et les répète, et les répète, et les répète, et les répète jusqu'à temps que plus personne pense que c'est un mensonge. Ça a-tu changé depuis le temps de David? Ça a-tu changé depuis le jardin d'Éden? Le cœur de l'homme est resté le même, rempli de mensonges. Les méchants se promènent de toutes parts. Pas les méchants en prison, comme je disais tantôt. Là. Ceux-là qui cherchent à écraser un pour avoir ce qu'il veut, pour s'élever, avoir son avantage au-dessus d'un autre, au détriment d'un autre. De toutes parts. Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. C'est pas beau comme phrase. Le roi, là, c'est ce qui règne, là, ce qui est élevé, ce qui est mis sur un piédestal. C'est ce qui devrait être sous nos pieds. Quand je dis, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Mais la réponse du chapitre 11 des psaumes, le juste, que ferait-il? J'ai aimé le psaume 11 aussi parce que les conseillers de David, il dit, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que tu devrais faire? Sauve-toi! Va te cacher dans les montagnes! On va tous partir une commune à quelque part en Gaspésie, là, puis il n'y en aura plus de mal autour de nous autres. Là. On va s'enfuir, puis on va se cacher. Est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Non. Il veut qu'on lui fasse confiance. Puis quand que Jésus a prié, Jésus a dit, je ne te prie pas des enlevés du monde, mais des délivrés du mal. Puis le mal, il ne faut pas toujours regarder en dehors pour le trouver. Délivre-les du mal. Quand le bassesse règne, qu'est-ce que le juste y fait? Il ne sauve pas. Parce que sinon, si le juste se sauve tout le temps, puis qu'il se cache tout le temps, ça fait la même chose qu'au verset 2. Sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent entre les fils des hommes. Est-ce que c'est ça la situation qu'on veut? Quand le mensonge règne, quand le péché règne, quand le péché est mis sur un piédestal, notre Dieu est souverain. Puis qu'est-ce que le fidèle devrait faire? Bien, le fidèle devrait rester. Est-ce qu'on devrait rester fidèle dans un monde où la bassesse et la fausseté règnent? Encore plus, on devrait être de ceux qui sont connus pour la vérité. On devrait être de ceux qui sont connus pour tenir ferme pour quelque chose de solide. Qu'est-ce qui ne change pas dans ce monde où le cœur de l'homme ne change pas puis est rempli de mensonges? Bien, c'est la parole de Dieu. Gardons la parole véridique et immuable de Dieu comme message et comme appui. Pas de dire, la Bible, là, finalement, on va l'ajuster au monde qu'on vit, là, puis je veux dire, il y a des choses qu'on va prendre, il y a des choses qu'on va laisser, parce que dans le fond, là, il faut essayer de faire un équilibre avec ça. Je veux dire, tu vas-tu prendre quelque chose qui s'est prouvé vrai au travers de 6000 ans d'histoire? La Bible n'a pas 6000 ans d'histoire, mais les écrits, l'histoire relatée dans la Bible date de là. Mais qui s'est prouvé vrai, puis je vais dire, faut que je mette du mensonge dedans, franchement. Non. Est-ce qu'on va tenir ferme pour la parole de Dieu? Tenir ferme pour la parole véritique et immuable de Dieu. Tenir ferme pour l'Évangile, le message de la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est venu incarner la vérité sur terre. Et devant Pilate, qu'est-ce que la vérité? Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Puis la vérité, c'est que si on croit en lui, Dieu veut nous pardonner. Même quand la bassesse règne, notre Dieu règne en souverain. Faisons-lui confiance. Je veux dire, le monde peut essayer de mettre toutes sortes de choses sur un piédestal, puis se faire dire qu'ils sont pécheurs. Il n'y a personne qui aime ça, il n'y a personne qui aime la vérité. Il n'y a personne qui aime ça se faire dire qu'il y a un nez croche ou qu'il y a les oreilles croches ou qu'il y a une oreille plus longue que l'autre ou que, tu sais, si j'avais toute une grosse tache ici, là. Puis là, tu viens me dire, hey, dis-tu une tache? Tu es donc bien un effronté de me dire que j'ai une tache. Non, mais est-ce que tu me faisais ça? Parce que je m'en viens en avant puis tout le monde va voir ma tache. Là. C'était gentil de venir me dire que j'ai une tache. Mais on ne veut pas l'entendre, la vérité. Mais la vérité de la parole de Dieu veut qu'on la proclame. Puis oui, ça fait partie de ça de dire que le péché est dans le cœur de tout homme. Mais merci Seigneur parce que le message ne s'arrête pas là, puis il va jusqu'à Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore avec un cœur rempli de péché, un cœur tortueux, un cœur menteur, la vérité, le chemin, puis la vie est venue, puis il a donné sa vie pour nous, pour qu'on soit pardonné. Dieu règne au-dessus de toute situation, puis un jour, il va tout ramener sous ses pieds. Faisons-lui confiance, c'est comme qui a été dit, c'est pas juste dans... On ne peut pas juste dire, ça va être dans 100 ans, dans 1000 ans que Dieu va faire de quoi. Dieu peut agir maintenant comme qu'il peut décider. Comme dans la conférence qu'on était en fin de semaine, le prédicateur disait tout le temps, il y a les trois réponses que Dieu peut donner. Oui, non ou attends. Mais si Dieu veut nous délivrer du mal, mais des fois, il faut qu'on passe, puis il veut qu'on lui fasse, qu'on continue de lui faire confiance, peu importe la situation où on est, puis de continuer de faire confiance à sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut premièrement te confesser que ces passages-là qui parlent du cœur puis du mensonge, mais ça ne s'adresse pas juste aux voisins, ça ne s'adresse pas juste à ceux qui sont en dehors, mais ça s'adresse à notre propre cœur qui est tortueux. Seigneur, on veut te confesser puis te demander pardon pour ça. Ces paroles, ces mensonges, ces calomnies qu'on peut avoir dit. Mais Seigneur, aussi, on veut te faire confiance dans nos vies parce que tu nous as dit que si on confessait nos péchés, tu allais nous pardonner. Seigneur, on veut aussi te faire confiance dans nos vies de tous les jours quand il semble qu'on est seul dans un monde qui veut constamment promouvoir le mensonge. Seigneur, qu'on puisse s'attacher à toi comme jamais auparavant, parce que toi, t'es la vérité. Qu'on puisse s'attacher à ta parole, parce que c'est un ressourcement dans lequel on peut aller avec confiance, lire ta parole, apprendre sur toi, apprendre sur ce que tu fais, apprendre sur qui tu es, apprendre sur comment tu nous aimes. Puis, Seigneur, apprendre sur les merveilleux plans que tu as pour nous, que ça puisse être un oasis pour chacun de nous. Puis, Seigneur, donne-nous constamment de te faire pleinement confiance avec nos vies, peu importe les circonstances. Amen. Merci, Gabriel.